l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, nous allons continuer dans cette étude. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Hein, c'est le verset 10 qui va nous intéresser particulièrement ce matin, mais je commence à lire au verset 4 jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mes Dieu, il y a le début du chapitre, c'est autre chose, mais tout d'un coup, tout change parce que Dieu intervient. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset 10 en particulier, car nous sommes, et il parle bien sûr il parle d'abord de ceux qui sont à Éphèse, des chrétiens qui sont à Éphèse, mais il dit nous, faisant référence à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes son ouvrage, celui de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bien sûr, nous avons déjà amplement souligné dans nos études que le salut est par la grâce, et rien d'autre. Par la grâce, c'est-à-dire que il y a un coupable à qui on a fait grâce et on lui offre le salut. Et que ce n'est surtout pas par les œuvres. En pensant à cela, bien sûr, peut-être que vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, ces deux frères qui chacun offre quelque chose à Dieu. Caïn qui offre de ce qu'il avait sous la main, donc du produit de son jardin. Et Abel qui offre ce que lui avait sous la main, donc le produit de son troupeau. Et si vous vous souvenez bien, l'offrande de Caïn a été refusée, tandis que l'offrande de Abel a été acceptée. Et première réaction, ça peut être une surprise, et dire mais pourquoi les deux semblent sincères, et pourquoi accepter l'un et refuser l'autre. Mais si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, vous voyez que la différence ne réside pas dans la nature de l'offrande, mais il nous dit que Caïn, c'est par la foi que Caïn a offert. C'est par la foi que Caïn a offert. C'est pas le fait. Dans un sens, Caïn représente. C'est par la foi que Abel a offert. Hein. Oui, voilà. J'ai vu les points d'interrogation sur la tête de plusieurs et ça m'a fait hésiter. Mais Caïn, c'est un peu celui qui présente ses œuvres. Voilà ce que j'ai fait. Et je t'offre cela. Et Dieu dit, moi, j'en veux pas. Parce qu'il offre ce qu'il a fait de ses mains. Tandis que Caïn, eh bien, il dit, c'est par la foi. Il reconnaît ce que Dieu a fait pour lui, la bénédiction de Dieu. Et c'est de cette manière-là. Et c'est un peu la même pensée que nous avons ici, parce qu'il y a une unité dans la Bible. Et c'est un peu ici aussi, il nous dit, mais c'est pas ce que vous pouvez offrir qui intéresse Dieu. C'est comment vous venez à lui. Et donc, le salut n'est ni un salaire, ni une récompense. Hein? Et ce serait injuste, parce que certains ont plus les moyens de faire des choses pour Dieu, certains auraient plus d'opportunités, et ce serait injuste. Et donc, Dieu n'a pas été dans ce sens-là. Et donc, le salut n'est ni une manière de récompenser, ni une manière de payer pour une fidélité quelconque. La vie éternelle est un don de Dieu. Il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Donc, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Un don, c'est à la portée de tous. Quelles que soient nos opportunités, quels que soient nos moyens, c'est un don de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu a tout pris à ses frais. C'est lui qui offre le salut et c'est lui qui paye les frais, en particulier son fils. Et le moyen pour obtenir ce salut, c'est la foi. Ce fait de pouvoir faire confiance à son offre. De dire, je crois qu'il est sincère. Quand il me l'offre, c'est extraordinaire, mais bon, je le crois et donc je prends. C'est ça, la foi, remplacer le mot foi par confiance. Et je peux faire confiance à l'offre de Dieu, donc que je l'accepte. Et le salut que Dieu propose est valable pour n'importe qui et chacun, quel que soit le moment où nous en sommes informés dans notre vie. Personnellement, j'ai été averti, on m'a parlé de cette offre de Dieu alors que j'étais très jeune. Donc, je n'ai pas pu faire les 400 coups que j'aurais certainement fait. J'en ai fait que 200. Mais ça a été proposé jeune. Pour d'autres, quand ils entendent parler de ce... Ils ont déjà un bagage. Mais ça ne change rien. Et pour d'autres, eh bien, ils ont été tellement victimes de tas de choses qu'ils ont du mal à croire que la bonté, ça existe encore. Et ils ont du mal à croire en la bonté de Dieu. Mais peu importe la situation dans laquelle je me trouve, vous savez, je peux venir à Dieu et il m'offre gratuitement. Il dit, quand tu entends, fais-moi confiance, crois, reçois et je te donne ce salut. Et dans ce salut, ce programme, c'est un programme qui est très complet parce que il y a le pardon des péchés. Il y a aussi la régénération, c'est-à-dire on reçoit une nouvelle nature, une vie nouvelle. Il y a la présence de Dieu qui nous est promise pour notre marche sur terre. Et il y a aussi la promesse que nous serons dans la présence de Dieu pour l'au-delà. Et donc c'est un programme, ce plan du salut, c'est complet, c'est gratuit. C'est pas seulement que nous avons échappé, pour ceux qui ont reçu, c'est pas seulement qu'on a échappé à un grave danger, mais c'est que aussi on a été réhabilité à une nouvelle vie. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin pour être en communion avec le Père. Et il y avait, vous savez, il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y a un arbre dont on parle moins souvent, c'est l'arbre de la vie. Et donc c'était prévu, c'était l'intention de Dieu, c'est qu'ils vivent dans cet état éternellement. C'est quelque chose qui, par le péché, ça a été perdu. Et donc maintenant, grâce à Jésus-Christ, il veut nous réhabiliter à cet état de pouvoir être en communion avec Dieu, de pouvoir recevoir de lui et aussi s'exprimer. Quand on parle de salut, c'est pas seulement le fait d'être, c'est pas comme ces gens qui essayent de traverser la Méditerranée pour venir en Europe, et donc on les récupère, et puis on les amène sur la plage, on les laisse sécher, et puis après on les lâche, et ils essayent de se faire une vie, comme ils peuvent, et ils essayent de circuler en Europe et de trouver leur bonheur. C'est pas comme ça que Dieu sauve. Quand il sauve, il prend en charge et il accompagne jusqu'au bout. Ça, c'est le salut de Dieu. Et tellement, c'était la pensée que l'apôtre Paul peut dire aux Philippiens, Philippiens chapitre 1, verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui commence cette œuvre, eh bien, il va jusqu'au bout, il l'achève. Et donc, justement, cette bonne œuvre dont il parle, qui va rendre parfaite, eh bien, c'est justement ce chef-d'œuvre. Et déjà, la dernière fois, on a dit que ce mot « ouvrage », c'est le même mot duquel nous tirons le mot « poème ». Et c'est ce verset, c'est justement cette pensée que nous avons au verset 10. Il dit « Nous sommes son ouvrage, nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes son poème, nous sommes quelque chose que lui a créé, qu'il a composé. » Et donc, il dit « Nous sommes son ouvrage, nous sommes le produit de sa composition. » Et donc, bien sûr, nous allons le redire certainement, mais ça veut dire que ce qui est en lui transparaît dans ce qu'il a créé. Dites, c'est trop bon pour être vrai. Et oui, mais c'est comme ça que Dieu agit. Donc, premièrement, ce que nous voulons voir, c'est que il nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. En Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est pas seulement en Jésus-Christ pour ne pas aller à la perdition, mais en Jésus-Christ dans une intention. Cette intention, ce sont les bonnes œuvres. Ces personnes dont il parle, ce sont ces personnes dont il a dit au début du chapitre, chapitre 2, verset 1, il nous dit que vous étiez morts dans vos péchés et vos offenses. C'est de ces gens-là qu'il parle. Il dit, vous étiez, mais maintenant, vous êtes créés pour de bonnes œuvres, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Bien sûr, pour que cela arrive, il nous dit déjà au verset 13, chapitre 1, verset 13, il nous dit que vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc il était important d'entendre le message et puis après de le croire, de placer confiance. Et là, tout d'un coup, vous vous êtes retrouvés dans un état nouveau, qu'on appelle cette nouvelle naissance. Et donc là, tout d'un coup, je deviens de l'argile entre les mains de Dieu et il veut me former pour une intention. C'est pas l'argile qui décide, c'est le potier qui décide quel sera l'usage. De ce qu'il va créer, mais ce n'est plus une masse d'argile, ça devient quelque chose d'utile. C'est ça l'image qu'il veut nous transmettre. Ces bonnes œuvres, parce que vous savez, toutes les religions du monde parlent de bonnes œuvres et mettent ce poids de bonnes œuvres. Et il faut faire des bonnes œuvres, et faites ceci, faites cela, voilà la liste des choses qu'il faut faire. Si vous faites ça compte pour beaucoup, ça compte pour moins. C'est toutes les religions, quelque part, elles nous encouragent à de bonnes œuvres, qui ne sont pas mauvaises en soi, pour la plupart. Mais l'inconvénient, c'est que vous parlez à ces personnes qui essayent de cumuler des bonnes œuvres, c'est-à-dire des prières, des souffrances. C'est bizarre que Dieu qui désire notre bonheur nous impose de la souffrance pour nous donner du crédit. C'est quand même contradictoire. Mais on fait à ces personnes, on les fait, et puis après, si tu fais la prière, c'est très bien, mais si tu la fais à genoux, et puis tu la fais dans un endroit inconfortable, ça comptera encore plus. Et comme si la souffrance et tout ça, ça augmente la valeur des œuvres. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Il n'a jamais, nulle part, est-ce qu'on trouve cela dans la Bible. Vous savez, autant les bonnes œuvres n'ajoutent absolument rien à notre salut, autant elles sont l'indication que le salut est effectif dans la vie de la personne. C'est-à-dire, elles n'apportent rien au salut. Mais une fois qu'on est sauvé, les bonnes œuvres démontrent le fait que nous sommes sauvés, qu'il y a la vie. Vous savez, Jacques, le responsable de l'église de Jérusalem, Jacques était, dans son épître, il ne le dit pas, mais dans Galates, l'apôtre Paul en parle et parle de Jacques comme étant le frère du Seigneur, hein, donc fils de Marie et Joseph. Et il dit dans son épître, donc Jacques chapitre 2 et verset 17, il dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Il dit « La foi, elle s'exprime forcément par des œuvres. Si tu as la foi, tu fais quelque chose. C'est l'expression de la foi. Ça n'apporte pas le salut, mais la foi, bien sûr, apporte quelque chose. Il dit, tu crois, mais démontre-le. Et ce sont les œuvres qui sont l'expression de la foi. On ne pourrait pas mesurer la foi d'Abraham s'il n'avait pas offert son fils. On ne pourrait pas connaître la foi de Rahab si elle n'avait pas sauvé les espions. Ce sont des gestes qui démontrent la foi. Donc c'est facile de le prétendre, mais la manière sûre de démontrer que nous avons la foi, c'est de le vivre. Et les bonnes œuvres font partie du plan de Dieu pour ceux qu'il a rachetés par son sang. Il nous dit dans Philippiens chapitre 2 et versets 12 et 13, il nous dit « Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, ou péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça va ensemble. Ce n'est pas seulement « Alléluia, je suis sauvé et je suis content comme ça ». Non, je suis sauvé, j'ai été tiré du danger, j'ai échappé au danger, mais maintenant, il y a une intention, il y a un projet, il y a une raison. C'est un peu ici ce qu'il nous présente quand il nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est un peu cette image que Jésus a utilisée dans Jean chapitre 15 où il a parti du pied de vigne. Donc il y a le cep, le tronc, et puis après il y a les branches, les sarments. Et il a dit, vous êtes les sarments, je suis le cep. Et il dit, le texte dit exactement, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sarment de lui-même ne peut pas produire de fruits. Mais s'il est attaché au cep et reçoit sa force, la sève du cep, il peut produire un fruit. Et il dit un peu, c'est cette image-là, il dit, vous êtes des sarments, d'accord, vous avez été hanté ou greffé dans le cep, mais maintenant, la chose la plus normale, c'est de produire du fruit pour les autres. Du fruit que à la gloire du cep. Et il n'y a rien de plus naturel. Et c'était cette manière-là que Jésus l'a exprimé. Et c'est tout à fait normal. Je ne sais pas ce qu'on ferait d'une vigne si elle ne produisait pas du raisin. Il n'y a rien. Le bois, il ne vaut rien. Si vous brûlez les sarments, ça fait beaucoup de fumée. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec une vigne. Et si ça ne produit pas le raisin. Mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec un être humain qui ne produit pas des bonnes œuvres. Il sert à quoi Et Dieu n'a pas besoin de bibelots pour garnir le ciel ni la terre. Il veut des... C'est un atelier pour lui. La terre est un atelier où il travaille et il produit. Mais l'important, c'est de demeurer, comme il dit, si vous demeurez en moi. L'important, c'est de demeurer en Jésus-Christ afin de porter du fruit digne de lui, digne de Dieu. Bien sûr, le sarment, quand il est hanté au cep, quand il est attaché au cep et reçoit sa sève, là, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire du fruit qui correspond au cep. Il ne produit pas des oranges ni des figues, il va produire du raisin, parce que le cep produit des raisins. Et donc, c'est produire du fruit, mais qui correspond à celui qui en est la source. Et il dit, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que les bonnes œuvres qu'on aurait essayé de produire, qu'on aurait voulu produire avant de connaître Jésus-Christ, eh bien, ça ne correspondait pas au cep. Ça ressemblait à moi, hein, parce que sa source était en moi, c'était les bonnes œuvres que je faisais, et c'est pour ça que la plupart d'entre nous sommes un peu détournés de la religion, parce que ça ressemblait trop aux hommes. Hein, il y avait de l'orgueil, il y avait de la vantardise, il y avait de l'égoïsme, il y avait toutes sortes de choses mélangées avec ces bonnes œuvres. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on se détourne de la religion, peu importe de laquelle il s'agit, parce que c'est mélangé avec de la nature humaine. Tandis que là, ce qu'il désire, il dit maintenant que vous avez été régénérés et que votre nouvelle nature produise du fruit. Bien sûr, le problème avec l'enfant de Dieu, tant qu'il est encore sur terre, c'est qu'il a les deux natures. Et donc parfois, il y a l'ancienne nature qui produit des choses, et après il y a la nouvelle nature qui produit autre chose. Et ce que nous devons, c'est petit à petit faire que l'ancienne nature disparaisse ou diminue, afin que la nouvelle nature transparaisse et produise du fruit à la gloire de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que ces bonnes œuvres soient le produit de notre salut et non pas le produit de nos efforts. Il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, avec l'intention de produire des bonnes œuvres et des œuvres qu'il considère bonnes. Hein, ce n'est pas ce que moi je considère bon, c'est ce que lui considère bon. C'est vous pouvez dire ce que vous voulez à l'acheteur, mais si lui il trouve que le produit n'est pas bon, ben il n'achète pas, c'est tout. Et là, ces bonnes œuvres qu'on présente à Dieu, ben, faut que ce soit quelque chose qu'il approuve. Et puis il ajoute en plus, on aurait pu mettre un point là, mais il met pas de point là. Il dit. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc c'est pas nous qui décidons, c'est pas ben moi j'aime bien faire ça, voilà ce que je vais faire, c'est ça que je vais produire et je vais donner à Dieu. Hein, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ben moi je nourris les chats du quartier. C'est gentil de s'occuper. Ben, heureusement pour eux, sinon. Sinon, on serait obligé de dire, il n'y a pas un chat. Hein, mais ils sont là. Et puis, ils comptent dessus, hein, parce qu'ils sont là au rendez-vous. Hein, je les ai vus. Mais c'est pas ce que... C'est bien. Mais c'est pas ce que Dieu demande. Hein, ne fais pas valoir ça pour obtenir la faveur de Dieu. Tu fais ça, c'est parce que tu aimes le faire, parce que tu vois l'utilité, et puis ça fait partie des responsabilités sur la terre, de s'occuper de la vie, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu désire. Les bonnes œuvres que Dieu veut, c'est ce que lui cherche. Il dit, donc ce n'est pas à toi de décider ce que tu voudrais présenter, c'est les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. Vous savez, quand je reprends cette image de Jésus, hein, quand il a parlé du cep et des sarments, eh bien, quand il a dit « Vous êtes des sarments et je suis le cep », ça veut dire que forcément, le fruit qu'on doit produire, c'est du raisin. C'est déjà décidé. À partir du moment, donc ça correspond à celui qui nous nourrit. Donc le disciple doit produire un fruit qui correspond au cep, à son cep, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, le disciple de Christ, ne peut rien produire. Hein, tout le reste, c'est comme si c'était rien du tout. Et donc, nous sommes réellement son ouvrage, parce que c'est sa vie qui s'exprime et qui produit en nous. Et donc, c'est Dieu, sa personne qui doit transparaître. C'est-à-dire que ces bonnes œuvres que lui produit au travers de nous, eh bien, ça doit un peu le ressembler. C'est-à-dire quand les gens voient ça, ils disent, ça c'est... Non, ça ne peut pas être Steve. Ça doit... c'est forcément Dieu qui a agi là. Parce que Steve, je ne le connais pas, mais bon, c'est pas... je ne peux pas être comme ça. C'est Dieu. Hein. Il faut que les bonnes œuvres qui sont produites, eh bien, nous fassent penser à Dieu. Hein, c'est un peu comme les disciples, quand ils ont été arrêtés dans le début des Actes, eh bien, en discutant avec eux, ils ont dit, bon, on voit qu'ils ont fréquenté Jésus. Ça se sentait, ça paraissait, dans la manière de se comporter, la manière de répondre, la manière d'agir, ça leur rappelait, les pharisiens se souvenaient que Jésus faisait la même chose, parlait de la même manière. C'est ça qui doit transparaître. Nos bonnes œuvres doivent ressembler à celui que Jésus. Et c'est un peu, il nous dit, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, c'est comme une œuvre d'art, que ce soit un tableau, que ce soit autre chose, eh bien, c'est la personnalité de la personne, de l'auteur, qui transparaît. Pas la personnalité du pinceau ou d'autre chose, mais vraiment l'artiste. C'est lui qui doit transparaître dans l'œuvre. Et donc, c'est là, il dit, les œuvres qu'il a préparées dans l'œuvre, ce sont les œuvres qui vont faire transparaître sa personne. Et c'est utile parce que de nos jours, les gens ils disent, mais bon, qu'est-ce qui me permet de croire en Dieu? Je ne le vois pas. Ils ne peuvent pas le voir. Parce qu'il n'est pas, d'abord, il n'est pas matériel, mais c'est qu'ils peuvent voir qu'il existe par son œuvre et ce qui transparaît, ce qui apparaît dans la vie de ceux qui sont à lui. Je me rappelle une fois, il y avait un frère égyptien en région parisienne qui avait une galerie de tableaux et je connaissais une dame qui faisait des tableaux, il y avait des peintures et je lui ai dit, écoute, donne-moi de tes tableaux là, puis je vais les présenter à ce propriétaire de la galerie là et voir ce qu'il peut faire. Et j'avais une dizaine de tableaux là, il les a pris, il a commencé à les regarder, et puis il les a mis dans un certain ordre. Moi, je les ai donnés comme ça en vrac. Lui, il a pris, il a commencé à les mettre dans l'ordre, et il a reconstitué la vie de la personne. Il dit, la personne est là, puis elle est passée par un moment difficile, et puis après là, ça allait mieux, et puis après... Et lui, il ne connaissait pas la personne. Moi, je connaissais la personne. Et c'est extraordinaire qu'en regardant à ces tableaux, et en voyant cette évolution, il a pu reconstituer la vie de la personne. Et c'est ce que nous devons être. Nous devons être ces tableaux. Quand les personnes nous voient, eh bien, ils voient Jésus-Christ, ils voient Dieu. Et ils se disent, le tableau, d'accord, mais je veux connaître le peintre. Hein, je veux connaître l'artiste. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé, celles qui lui permettent de transparaître. Vous savez qu'il dit, nous avons été créés. Donc, c'est une chose qui est déjà faite. C'est pas une question, c'est pas nous qui choisissons. C'est déjà fait. Vous savez, on l'a lu par ailleurs, et on est dans Romains chapitre 12, quand nous étions dans Romains chapitre 12, on a dit que nous formions un corps, le corps de Christ. L'ensemble des chrétiens forment le corps de Christ. Et chacun est membre pour sa part. Et chaque membre a sa place et chacun a sa fonction. Et si chacun a sa place et chacun a son fonction, à partir du moment qu'il a été créé avec une fonction particulière, ben, l'œuvre, c'est ça, hein, vous... Ne demandez pas aux yeux d'entendre. Les yeux, puis si quelqu'un a œil, ben c'est pour voir. Hein, il n'y a pas autre chose. Ça a été déjà décidé à l'avance par celui qui a créé l'œil, celui qui a mis l'oreille, celui qui a mis la main, celui qui a mis le pied. C'est la fonction déjà décidée. Les œuvres qui sont préparées d'avance. Et donc la question, c'est moi de dire, ben, c'est là où il m'a placé, c'est ce qu'il m'a donné, et donc je veux l'accomplir. Et les dons spirituels, eh bien, 1 Corinthiens 12, 11 nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui les donne comme il veut. Hein, donc c'est pas nous qui décidons. C'est-à-dire, moi j'aimerais être ceci, moi j'aimerais être cela. Non, c'est je remplis la place qu'il m'a donnée. Et là, je peux, quand je remplis bien la fonction qu'il m'a donnée, là je peux faire les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. C'est vrai que pour certains, c'est peut-être cette œuvre est moins visible que d'autres, mais elles sont toutes visibles de Dieu. Et donc c'est à nous de trouver quels sont ces dons que Dieu nous a donnés, quelle est la fonction qu'il nous a donnée dans le corps de Christ, dans l'Église, dans cette société, et de remplir notre fonction. Hein. Et peu importe si ce que je fais ressemble à quelqu'un d'autre ou pas, ce qui importe, c'est que je remplisse ma fonction. Nous savons aussi, nous avons vu que nous sommes créés à l'image, nous avons été prédestinés à être à l'image du Fils de Dieu, ce qui impose des orientations particulières aussi, hein, si on veut être à l'image de Dieu. Et ça veut dire que déjà, le concepteur de l'ouvrage a déjà des idées déjà faites. Parce que je sais que dans notre société, on aime bien, je suis libre, je veux faire ce que je veux, je m'exprime, je le sens, je le sens pas, mais c'est une liberté qui finalement ne rend pas heureux, hein. Il suffit de regarder à notre monde et à ceux qui font ce qu'ils ont envie de faire, et ils ne sont pas forcément heureux. Ils sont heureux pendant quelques minutes, mais vous regardez sur le temps, et ils ne sont pas forcément heureux. Cette liberté-là, finalement, elle est trompeuse. Un premier abord, elle dit, ouais, je fais ce que je veux, je suis libre, je le sens, je ne le sens pas, mais finalement, on n'est pas heureux. Prenez un enfant et dites, écoute, tu peux faire ce que tu veux, cet après-midi, tu es libre, tu fais ce que tu as envie de faire, vas-y. Ben, il est malheureux, il s'ennuie. Parce qu'on n'est pas fait, on a été créé de manière à ce qu'avoir une fonction, un objectif, et c'est quand on remplit notre objectif qu'on est heureux. Hein? Et donc, je dis, mais qui est-ce qui m'a créé? Pourquoi est-ce qu'il m'a créé? Et je veux remplir cette fonction, et quand je la remplis, je me sens épanoui. Hein? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, et surtout quand on a affaire avec Dieu, on a quelqu'un qui cherche notre bien. Je comprends qu'on n'ait pas envie de nous remettre entre les mains de n'importe qui, parce que, bon, en général, quand on l'a fait, on s'est fait avoir. Hein. J'ai dû passer à la banque aussi cette semaine pour dire que j'étais arnaqué. C'est pas agréable, mais c'est parce qu'on peut pas faire confiance. Mais, vous savez, mais avec Dieu, il n'y a pas d'arnaque. C'est lui, il l'a démontré. Quelqu'un qui est prêt à offrir son fils pour moi, eh ben, c'est pas quelqu'un qui va profiter de moi. Parmi les œuvres que Dieu a préparées d'avance, certaines sont, on dirait qu'elles sont générales, c'est-à-dire elles sont là pour tous les chrétiens. Il y a certaines choses qui sont des œuvres que tous les chrétiens, quand vous dites lire la Bible, prier, être bon, porter les fardeaux les uns des autres, prier les uns pour les autres, tout ça, ben ça c'est pour tous les chrétiens, il n'y a pas... c'est des intentions, c'est des œuvres préparées d'avance, mais... pour nous tous. Puis après, il peut y en avoir d'autres qui sont particulières pour l'un ou pour l'autre. Et sont spécifiques. Et donc, c'est à nous de connaître celles-là aussi et de les découvrir et puis de remplir cette fonction. Donc, il nous dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas n'importe lesquelles, celles que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin que nous pratiquions ces bonnes œuvres, nous devons les pratiquer. Vous savez, les bonnes œuvres, dans la religion, ceux qui arrivent à cumuler des bonnes œuvres, en général, ils ont un problème d'orgueil. Hein, ils aiment bien, il suffit de lire les pharisiens, la description des pharisiens dans l'Ancien Testament, hein, qui coupaient les cheveux en quatre par rapport à la loi, pour pouvoir être bien vu, et puis qui avaient... et qui aimait prier au coin des rues pour être vu, et qui jeûnait, et puis qui était tout triste pour que tout le monde sache qu'il jeûnait. Et tout ça, c'est un orgueil. Et c'est pas ça, ces bonnes œuvres ne sont pas là pour cela. c'est pas, nos bonnes œuvres ne sont pas là pour les porter comme des galons ou des médailles, hein. C'est pas pour faire que tout le monde regarde tout ce que j'ai fait, voilà ce que, hein, voilà ce que j'ai pu accomplir, j'ai amené tant d'âmes à Christ, voilà, j'ai fondé 25 églises, j'ai fait ce... Non, 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 ça dépend. Ça dépend. Si Dieu avait voulu que tu en fondes 50 et tu n'en as fait que 25, t'y a pas, il faut pas te fier, hein. Mais si Dieu a voulu que tu témoignes à une personne et tu l'as fait, là tu as fait ton travail. Et bien fait ton travail. Ça n'a rien, on ne peut pas se comparer les uns aux autres. C'est, qu'est-ce que, vous avez dans votre cuisine, mes sœurs, vous avez toute une batterie de casseroles et d'ustensiles de toutes sortes. Il y a certains que vous utilisez tous les jours, il y a certains c'est pour un plat particulier. C'est très spécifique. Mais il est utile. Et à partir du moment qu'il remplit son rôle quand j'en ai besoin, je suis content. Je ne le jette pas. Et donc, Dieu aussi, nous avons chacune notre place et nous remplissons notre place. Nous ne pouvons pas nous comparer, nous ne devons pas nous comparer les uns aux autres. Deuxièmement, je veux souligner le fait que le mot pratiquer, ici, c'est, en fait, c'est, dans le grec, c'est le mot marcher, hein, péripatéo, c'est-à-dire c'est marcher. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il veut, c'est que ces bonnes œuvres soient notre mode de vie. Ce n'est pas seulement quelque chose que je pratique et puis je cumule pendant une saison et pendant un temps et puis je dis, oh ben voilà, j'ai un petit stock de bonnes œuvres là, c'est bon. Non, non, c'est mon mode de vie. C'est comme ça que c'est ma vie. Ça veut dire que Jésus, par exemple, peu importe s'il y avait que la femme samaritaine toute seule, ou qu'il y ait une foule autour de lui, ou qu'il y ait la femme prise en adultère devant lui, c'était toujours le même homme. Il était toujours le même. Et c'est cette constance qui doit exister chez nous. Je n'étais pas dans mon assiette ce jour-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire être dans son assiette. Hein. C'est une expression qui décrit rien du tout, qui n'explique rien, mais qui est utilisée comme excuse pour beaucoup de choses. Mais c'est pour l'enfant de Dieu, eh ben, c'est la constance qui montre l'œuvre de Dieu. Et en fait, et ce sont des bonnes œuvres qui sont faites pour Dieu, eh bien, elles doivent suinter du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, le fruit de l'esprit, par exemple, la bonté. C'est-à-dire que ce sont des œuvres, mais cette œuvre, ce n'est pas seulement l'œuvre en soi, mais c'est la bonté l'accompagne. La patience l'accompagne, l'amour l'accompagne, parce que c'est le produit de l'œuvre de Dieu en moi. Donc, ce n'est pas seulement que j'ai fait quelque chose, et c'est comme ça qu'on se mesure entre nous, je lui ai donné, hein, je lui ai donné 3 euros. Oui, mais tu l'as donné pour qu'il te laisse tranquille, ou tu l'as donné avec l'amour de Dieu. Et c'est... C'est pas pareil, c'est pas le même geste. Et Dieu voit la différence. Et moi, je sens la différence. C'est pas le même sentiment. Et donc, il faut que l'œuvre de l'esprit accompagne l'œuvre. Donc, on peut vivre la vie chrétienne de manière professionnelle ou mécanique. Et personne ne pourra reprocher parce que non, toujours, toujours à l'heure, toujours ceci, toujours cela. Il connaît les versets bibliques, il connaît ça. Mais c'est sec. Et puis il y a l'autre. On sent qu'il y a quelque chose dedans. Il y a une vie. On sent l'amour du Seigneur dedans. Et ça, c'est ça que le Seigneur désire. C'est ça les bonnes œuvres dont il parle. Hein? Et c'est là où peut-être qu'on se lasse dans la religion, on se lasse de ce qui est dit, de ce qui est fait, parce que c'est finalement ça n'a pas de goût spirituel. Et autant quand c'est vraiment quelqu'un qui le fait pour le Seigneur et par la force du Seigneur, c'est tout autre chose et c'est reçu tout autrement. Et ça communique une grâce. On aurait demandé à un grand orateur de réciter le psaume 23. Vous connaissez le psaume 23, hein, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On aurait demandé à cet orateur de réciter le psaume 23. Et il l'aurait fait de manière si belle que il y a eu des applaudissements d'admiration. Mais juste après, il y a un vieux saint de sa voix rauque qui s'est levé et qui a récité le même psaume. Mais quand il arrive à la fin, les yeux de ceux qui ont écouté étaient humides. Il n'y avait pas d'applaudissements. Il y avait un silence. Et quelqu'un a demandé à l'orateur, il dit, mais pourquoi la différence ? Il a répondu, moi je connaissais le psaume, mais lui connaissait le berger du psaume. Vous voyez la différence ? Et ça peut être, ils ont récité les mêmes mots, mais ça a été dit autrement. L'un faisait valoir le talent et l'art, l'autre a fait valoir la relation avec le berger. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons vivre. C'est ça, vivre les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et après tout, notre statut en Christ, et comme il l'a dit au chapitre 1, c'est que ce soit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. C'est-à-dire, finalement, tout ça, c'est pour que Dieu soit loué. On dit, Dieu a quand même fait du bon travail chez celui-là. Parce que là, on ne pense plus à la personne, ni son talent, ni sa capacité, mais on pense à Dieu et l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que Dieu dit, oh Steve, tu rêves. Écoutez, je ne suis pas sûr que je rêve, peut-être c'est rare, mais ce qui est rare est beau et existe, et c'est ce que nous devons rechercher. Hein, tout à l'heure, on a parlé du fait de connaître Jésus, de le connaître afin de pouvoir communiquer ce qui est à ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est notre désir. Et ce matin, bien, si vous êtes en train d'essayer de faire valoir vos antécédents, votre passé, vos œuvres, votre ou manque de mauvaises œuvres, tout ça, écoutez, je le regrette, mais de vous dire que tout ça, ça ne compte pas, ça ne peut pas vous sauver, ça ne pourra pas vous sauver, même si c'était bien intentionné, même si c'était sincère, mais parce que ce n'était pas en Jésus-Christ. Et donc, c'est juste une question de dire, mais Dieu, je ne comprends pas, mais je comprends que tu m'aimes, parce que tu le dis, et tu dis que tu veux m'offrir la vie éternelle en Jésus-Christ, et donc je veux la recevoir. Et je ne comprends pas comment ça se passe, je ne sais pas par quel moyen ça se fait, mais par la foi, je le crois. Et là, cette œuvre de transformation se fait, et après là, il y a un désir de vivre pour Dieu et de faire, de le plaire. Et là, c'est toute une autre vie. Et ça, c'est ce qui est vrai. Et c'est ça, même les gens inconvertis vont l'admirer. Parce qu'il dit au moins c'est du vrai, c'est sincère, et même si ça ne m'intéresse pas, mais au moins je respecte la personne parce que c'est du vrai. Tandis que vous savez ce qu'ils disent par rapport à la religion et par beaucoup de choses, vous savez, vous avez entendu, on l'a dit nous-mêmes, ça c'est hypocrite. Tandis que quand c'est du vrai, ça porte gloire à Dieu. Que la personne croit, reçoive Dieu ou ne le reçoive pas, mais au moins ils ont compris que c'est pas la nature humaine, mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu produit. Et aussi pour nous qui sommes en Jésus-Christ et qui avons reçu, bien, comprenons que c'est pas juste une question de dire alléluia, je suis sauvé, c'est pas une question d'avoir été tiré de la mer et mis sur les plages d'une île qui appartient à l'Italie, mais c'est le fait d'être accompagné jusqu'au bout, établi dans un monde nouveau en Jésus-Christ. Et donc, recherchons à être ce que Dieu a prévu pour nous, être vraiment son ouvrage et d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. et puis et que ça devienne un mode de vie. Hein, en tout moment, mais peu importe les circonstances, voilà ce que je suis, et voilà, et pas autre chose. Prenez un rosier, vous le plantez à côté d'une décharge, vous le plantez dans un jardin du palais royal, vous le plantez au bord de la route, vous le plantez au fond du jardin, c'est la même rose. Parce qu'il a été créé pour cela, et il va le produire. Et qu'il y ait quelqu'un qui passe pour l'admirer ou pas, que quelqu'un sente son parfum ou pas, il va le produire quand même. Parce qu'il dit, j'ai été créé, mon créateur m'a créé pour cette intention, et donc je vais la remplir. Et c'est le désir que nous devons avoir. Nous allons prendre quelques minutes où chacun pourra faire sa prière personnelle au Seigneur en fonction de sa situation et que chacun soit libre dans le silence, dans ce moment de silence, de prier la prière qu'il doit prier et puis la prière qu'il va continuer de prier pendant toute cette semaine.